Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous lire quelque chose d'un peu particulier concernant l'alimentation. C'est le yoga et la santé par mer. Ce sont des extraits des œuvres de la mer qui ont été publiées en 1990 par Sri Aurobindo Ashram. La nourriture de demain. Il y aura une cuisine du pays à Auroville, c'est-à-dire que les Japonais pourront manger du japonais s'ils le veulent, mais dans la ville elle-même, il y aura la nourriture pour les végétariens et la nourriture pour les non-végétariens. Et aussi une sorte d'essai pour trouver la nourriture de demain. Pour trouver une nourriture de demain. Tout ce travail d'assimilation qui vous rend si lourd, ça occupe tellement de temps et d'énergie de l'être, que ce soit fait avant, que l'on vous donne quelque chose qui soit immédiatement assimilable comme ils le font maintenant. Par exemple, ils ont des vitamines directement assimilables et aussi des protéines, des principes nutritifs qui se trouvent dans telle ou telle chose. Les gens n'aiment pas cela parce que simplement parce qu'ils prennent un plaisir intense à manger. Mais quand on ne prend plus plaisir à manger, on a besoin d'être nourri et de ne pas perdre son temps à cela. On perd un temps énorme, un temps à manger, un temps à digérer et tout le reste. 30 novembre, 30 décembre 1967. Une offrande à la conscience divine. Physiquement, nous dépendons de la nourriture pour vivre, malheureusement. Parce que, avec la nourriture quotidiennement et constamment, nous absorbons une quantité formidable d'inconscience, de tamas, de lourdeur et de stupidité. On ne peut pas faire autrement à moins que, constamment, sans arrêt, nous devenions complètement éveillés et que dès qu'un élément s'introduit dans notre corps, immédiatement, nous travaillons dessus pour en extraire seulement la lumière et rejeter tout ce qui peut obscurcir notre conscience. C'est l'origine et l'explication rationnelle de l'habitude de se consacrer sa nourriture au divin avant de la prendre. En mangeant, on veut que cette nourriture que l'on prend ne soit pas pour le petit égo humain, mais comme une offrande à la conscience divine au-dedans de soi. Dans tous les yogas, on encourage cela. C'est l'origine de cette habitude, la conscience qui est derrière justement pour diminuer autant qu'il se peut l'absorption d'une inconscience qui augmente quotidiennement, constamment, sans que l'on s'en aperçoive. 19 avril 1951. Alors je termine avec le tabac et l'alcool. Pourquoi le tabac et l'alcool abolissent la mémoire et la volonté? Pourquoi? Parce qu'ils le font. Il n'y a pas de raison morale, c'est un fait. Il y a un poison dans l'alcool. Il y a un poison dans le tabac. Et ce poison entre dans les cellules et détériore les cellules. L'alcool ne s'élimine, pour ainsi dire, jamais. Il s'accumule dans une certaine partie du cerveau. Et alors, après l'accumulation, ces cellules ne fonctionnent plus du tout. Il y a des gens d'ailleurs qui en deviennent fous. ce que l'on appelle le délirium tremens, qui est le résultat d'avoir avalé trop d'alcool que l'on n'absorbe pas, qui reste comme ça concentré dans le cerveau. Et même, c'est si radical qu'il y a des pays, comme la France par exemple, qui produisent du vin. Le vin a un pourcentage d'alcool très petit, je crois que c'est 4 ou 5%, un très petit pourcentage. Ils boivent leur vin pur et au bout d'un certain temps, ils sont malades. Ils boivent du vin comme on boit de l'eau. Ils ont des dérangements du cerveau. J'en ai connu comme ça, le cerveau était dérangé et ne fonctionnait plus. Et le tabac, la nicotine, est un poison très sérieux. C'est un poison destructeur des cellules. J'ai dit que c'était un poison lent parce qu'on ne le sent pas immédiatement, sauf quand on fume pour la première fois, que ça vous rend très malade et ça devrait vous faire comprendre que ce n'est pas à faire. Seulement, les gens sont tellement bêtes qu'ils croient que c'est une faiblesse et ils continuent jusqu'à ce qu'ils s'habituent au poison. Et le corps n'a plus de réaction. Il le laisse se détruire sans réagir. Vous abolissez la réaction de tout le corps. Le 24 mars 1954. Le détachement complet. Ce n'est pas de s'abstenir de nourriture qui peut vous faire faire un progrès spirituel. C'est d'être libre, non seulement de tout attachement, de tout désir et de toute préoccupation pour la nourriture, mais même de tout besoin d'être dans cet état où ces choses sont si étrangères à votre conscience qu'ils n'y occupent aucune place. C'est à ce moment-là, comme un résultat spontané, naturel, que l'on peut cesser de manger d'une façon utile. On pourrait dire que la condition essentielle, c'est d'oublier de manger. D'oublier parce que toutes les énergies de l'être et toutes ces concentrations sont tournées vers une réalisation intérieure plus totale, plus vraie, vers une préoccupation constante, impérative, de l'union de tout l'être, y compris ses cellules corporelles, avec la vibration des forces divines, avec la force supramentale qui se manifeste. Que cela soit la vraie vie, non seulement la raison d'être de la vie, mais l'essence de la vie. Non seulement un besoin impératif de la vie, mais toute sa joie, toute sa raison d'être. Quand c'est là, quand cette réalisation est obtenue, alors manger, ne pas manger, dormir, ne pas dormir, tout cela n'a aucune importance. C'est un rythme extérieur laissé au jeu des forces universelles dans leur ensemble, s'exprimant dans toutes les circonstances et les personnes qui vous entourent. Et alors le corps uni, uni totalement à la vérité intérieure, à la souplesse, une adaptation constante. Si la nourriture est là, il la prend. Si elle n'est pas là, il n'y pense pas. « 12 juin 1956. Les prétendus besoins du corps. Sri Aurobindo parle dans la synthèse des yogas, même les besoins physiques, les besoins du corps que généralement on considère comme des choses impérieuses et qui ont leur vérité en soi. Il dit que même cela peut être seulement une lumière tout à fait partielle, c'est-à-dire un semblant de connaissance ou même une chose fausse. Cela va à l'encontre de toutes les idées modernes. Les gens ont toujours l'impression que ce qu'ils appellent les besoins de leur corps, ce que le corps demande est une loi absolue, que si on ne l'obéit pas, eh bien, on fait une faute grave contre son corps qui en subira les conséquences. Et si Sri Aurobindo dit que ces besoins eux-mêmes sont des lumières très partielles, c'est-à-dire seulement une façon de voir les choses, ou bien pas de lumière du tout, tout à fait faux. Si l'on étudiait attentivement le problème, on s'apercevrait à quel point les soi-disant besoins du corps dépendent de l'attitude mentale. Par exemple, le besoin de manger. Il y a des gens qui littéralement meurent de faim s'ils n'ont pas mangé pendant 8 jours. Il y en a d'autres qui le font exprès et qui prennent le jeûne comme un principe du yoga, comme une nécessité du yoga. Et pour eux, au bout de 8 jours de jeûne, le corps se porte aussi bien qu'au début et quelquefois mieux. Finalement, pour toutes ces choses, c'est une question de proportion et de mesure. Il est évident que l'on ne peut pas vivre toujours sans manger. Mais il est évident aussi que l'idée que l'on a du besoin de manger n'est pas vraie. Au fond, c'est tout un sujet d'étude, l'importance de l'attitude mentale vis-à-vis du corps. Sri Aurobindo ne reconnaît pas les besoins du corps comme des choses qui ont leur vérité en soi. Il dit « ce n'est pas vrai, c'est seulement une idée que vous avez, une impression, ce n'est pas une chose vraie qui porte sa propre vérité en soi ». L'attitude juste, manger pour vivre, ne vivez pas pour manger. L'avidité pour tout ce qui touche à la conscience physique, aux soi-disant nécessités et au confort et de quelque nature que ce soit, constitue l'un des plus sérieux obstacles à la sadhana. Et chaque petite satisfaction de vos désirs vous éloigne un peu plus du but. Un sadhak doit manger pour satisfaire les besoins de son corps et non pour répondre aux exigences de sa gourmandise. Quand vous avez un désir que vous êtes dominé par l'objet de ce désir, il prend possession de votre mental et de votre vie et vous en devenez l'esclave. Si vous avez une passion pour la nourriture, vous n'êtes plus le maître de la nourriture. C'est la nourriture qui devient votre maître. À moins que vous ne contrôliez votre alimentation, vous serez toujours malade. Ce qui est nécessaire, c'est une attitude intérieure de libération de l'attachement et de la convoitise pour les désirs du palais, non pas une diminution injustifiée de la quantité absorbée ou une inanition volontaire. On doit prendre la nourriture suffisante pour maintenir la force et la santé de son corps, mais sans attachement ni désir. L'effet de la nourriture sur le corps dépend à 90% du pouvoir de la pensée. Ce que nous voulons savoir, c'est la quantité de nourriture que vous prenez. Si vous dormez suffisamment et de façon régulière, ces deux choses sont d'une importance car, pour pouvoir satisfaire aux exigences d'une sadhana comme la nôtre, il ne faut pas que le mental, le corps et le système nerveux soient affaiblis à cause d'un manque de nourriture et de sommeil. Alors je termine par quelques extraits. La jeunesse, la vieillesse et la mort. Sincérité, humilité, persévérance et une soif insatiable de progrès sont essentiels pour une vie heureuse et efficace. Et surtout, il faut être convaincu que la possibilité de progrès est sans limite. Le progrès, c'est la jeunesse. On peut être jeune à 100 ans. Seules les années vécues en vain vous font vieillir. Une année vécue en vain est une année durant laquelle aucun progrès n'a été accompli. Aucune croissance de conscience n'a été réalisée. Aucun pas en avant n'a été fait vers la perfection. À partir du moment où vous êtes satisfait, où vous cessez d'aspirer, vous commencez à mourir. La vie est un mouvement, la vie est un effort. C'est une marche en avant, une ascension vers les réalisations, les révélations futures. Rien n'est plus dangereux que de vouloir se reposer. Consacrez votre vie à la réalisation de quelque chose de plus haut et de plus vaste que vous-même, et vous ne sentirez jamais le poids des années qui passent. Parce qu'ils ne savent pas aller aussi vite que la nature dans son progrès vers le divin. Au point de vue de la connaissance spirituelle, la décrépitude et la dissolution, la désintégration sont tout simplement incontestablement le résultat d'une mauvaise attitude. Quand les corps auront appris l'art de toujours progresser vers une perfection croissante, la fatalité de la mort sera en bonne voie d'être vaincue. Savoir à chaque instant renaître à une vie nouvelle est le secret de la jeunesse éternelle. La jeunesse ne dépend pas du petit nombre des années, mais de la capacité de croître et de progresser. Croître, c'est augmenter ses potentialités, ses capacités. Progresser, c'est perfectionner sans cesse les capacités que l'on possède déjà. La vieillesse ne vient pas du grand nombre des années, mais de l'incapacité ou de refus de continuer à croître et à progresser. Dès que l'on veut s'installer dans la vie, et profiter des efforts du passé. Dès que l'on pense avoir fait ce que l'on devait faire et accompli ce que l'on avait à accomplir, en un mot, dès que l'on cesse de progresser, d'avancer sur le chemin de la perfection, on est sûr de reculer et de vieillir. Au corps aussi. On peut apprendre qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune limite à sa croissance en capacité, à son progrès. pourvu que l'on découvre la vraie méthode et les vrais conditionnements. Telle est une des nombreuses expériences que nous voulons tenter, non pour rompre les suggestions collectives et montrer au monde que les possibilités humaines dépassent toute imagination. Ce n'est pas ce qui fait vieillir. Ce n'est pas le nombre d'années vécues qui vous rend vieux. Vous devenez vieux quand vous cessez de progresser. Quand vous sentez que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, que vous pensez que vous avez fait tout ce que vous devez savoir, que vous voulez vous asseoir et jouir du résultat de vos efforts avec le sentiment que vous avez assez travaillé dans la vie, alors immédiatement vous devenez vieux et vous commencez à décliner. Quand au contraire, vous êtes convaincu que ce que vous savez n'est rien en comparaison de tout ce qui reste à savoir. Quand vous sentez que vous avez fait et juste que ce que vous avez fait est juste le point de départ de tout ce qui reste à faire. Quand vous avez l'avenir devant vous comme un soleil attrayant, rayonnant de toutes les innombrables possibilités qui restent à accomplir, alors vous êtes jeune, quel que soit le nombre des années que vous avez passées sur la terre, jeune et riche de toutes les réalisations de demain. Et si vous ne voulez pas que votre corps vous trahisse, évitez de gaspiller vos énergies en agitation inutile. Quoi que vous fassiez, faites-le dans le calme et l'équilibre. La plus grande force est dans la paix et le silence. Je vous salue, mes braves petits soldats, et vous donne rendez-vous à la victoire. Reste jeune, ne cesse de tendre vers la perfection. Je termine. Le yoga et la santé concernant l'alimentation et la jeunesse, la vieillesse et la mort. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture. Ganga Lakshmi.